Bonjour, mes amis. Il y a quelques semaines, peut-être un mois, ma femme et moi cherchions des bancs en fonte à installer devant notre maison pour créer un petit coin salon. Et pour trouver ce genre de mobilier en fonte, il faut souvent fouiller sur Facebook Marketplace, dénicher des articles d'occasion et les restaurer. Nous en avons donc trouvé une paire qui nous plaisait. Elles étaient en mauvais état, il a fallu enlever tout le bois, réparer le métal à quelques endroits, et je ne crois pas avoir réparé le métal sur celle-là, mais les peindre puis y mettre des lattes de bois neuves, assez simples. Mais en ce qui concerne le bois d'extérieur, on peut soit opter pour du bois traité, qui offre une certaine souplesse. Il existe beaucoup de bois tendre traité, mais il faut alors composer avec les produits chimiques et le temps de séchage du bois vert traité, soit choisir un bois dur. Il existe une grande variété de bois dur, mais le plus courant dans cette région est sans doute le chêne rouge, qui est très poreux et peu adapté à l'extérieur. Le bois de prédilection pour cette application est le chêne blanc, qui a une structure poreuse très dense et qui se comporte très bien à l'extérieur une fois vitrifié, mais le problème, c'est qu'il est très cher. Vraiment très cher. Un coût prohibitif pour ce projet. J'ai donc cherché un peu partout, et sur Marketplace encore une fois, j'ai vu quelqu'un vendre des steaks de bois dur pour Thomas d'environ 10 cm sur 15 cm, ou quelque chose comme cela. Ils avaient finalement été sciés à cette dimension, et je me suis dit, quel genre de tomate nécessite des steaks de cette taille? Une sorte de tomate venue de la terre promise, peut-être, mais aucune tomate que l'on voit ici, du moins en Amérique. J'ai donc contacté cet homme et je me suis rendu chez lui, et les prix étaient très intéressants. En arrivant, j'ai vu ces sacs emballés dans du cellophane, qui ressemblait à de l'herbe. Je lui ai demandé, qu'est-ce que c'est? Et il m'a répondu, eh bien, je fais des expériences avec de l'ensilage, de la nourriture pour animaux. Nous nous sommes un peu enfoncés dans sa propriété, et j'ai vu ses structures aux formes étranges. Je lui ai demandé, que faites-vous ici, monsieur? Il m'a répondu, eh bien, je fais des expériences sur la charge de neige pour trouver la structure la plus efficace contre la charge de neige dans cette région du pays. Je me suis dit, c'est intéressant. Puis, en avançant un peu plus loin sur sa propriété, j'ai vu ses magnifiques granges et hangars. Je lui ai demandé, c'est vous qui les avez construits aussi? Il m'a répondu, oui, c'est moi. Un homme très terre à terre. Nous sommes donc passés aux planches, j'ai choisi celles que je voulais, et il m'a proposé de les scier, puis je les ai finalement rabotées et finies. Mais je lui ai demandé, où avez-vous trouvé ce bois? C'est bien moins cher que ce que vendent les autres. Et il m'a répondu, c'est du bois de palette. Je pars un peu partout, je trouve des palettes. J'enlève les clous et je les utilise. Et j'ai dit, et ces structures? Il a répondu, oui, j'ai construit toutes ces structures gratuitement. Et j'étais fasciné, j'étais émerveillé. Je veux dire, de véritables granges, des hangars de stockage. Tout cela gratuitement. J'ai continué à discuter avec lui, et il m'a raconté ce que son grand-père lui avait enseigné. C'est là l'origine, ou plutôt le noyau de ce qui a donné naissance à l'idée de ce message. Il m'a dit, mon grand-père, qui devait être un homme né probablement dans les années 1800, vers la fin du 19e siècle, et qui avait traversé la Grande Dépression. Mon grand-père m'a dit, j'ai fait tant de choses avec si peu pendant si longtemps que maintenant, je peux faire à peu près n'importe quoi avec rien. Et j'ai repensé de plus en plus à cette phrase au cours des semaines suivantes. J'ai fait tant de choses avec si peu pendant si longtemps que maintenant, Je peux faire à peu près n'importe quoi avec rien. Et cela m'a vraiment frappé. Ça parle de débrouillardise. L'une des lois du succès, dont nous allons parler aujourd'hui, c'est l'ingéniosité. Vous savez, cette mentalité du chewing-gum, du fil de fer et du ruban adhésif, où l'on peut faire à peu près tout avec rien. Des histoires de survie me viennent à l'esprit. Des gens qui n'ont presque rien échappent à des situations terribles. Si l'on considère l'ingéniosité aujourd'hui, on constate que les personnes les plus ingénieuses l'utilisent souvent pour de mauvaises raisons. Les voleurs. Les arnaques qui pullulent deviennent de plus en plus astucieuses, ou bien on trouve beaucoup de gens qui ont fait si peu avec tant de moyens pendant si longtemps qu'ils sont désormais capables de ne rien faire avec quoi que ce soit. C'est davantage ainsi que la société fonctionne aujourd'hui. Mais si vous réfléchissez à cette loi du succès, de l'ingéniosité, et que vous regardez simplement le mot et le décomposez, ingéniosité, plein de ressources, plein de ressources. Vous voudrez peut-être noter cela. Il y a des gens qui peuvent surmonter n'importe quelle situation parce qu'ils ont les outils, les ressources, qu'il s'agisse de ressources immatérielles de l'esprit ou d'outils physiques concrets, nécessaires pour accomplir n'importe quelle tâche donnée. Ouvrez votre Bible à 2 Corinthiens 10, pendant que nous continuons à préparer le terrain, si vous voulez bien, 2 Corinthiens 10. Nous disposons de certains outils, frères et sœurs. Nous disposons de certaines ressources. Nous sommes pleins de ressources. Nous sommes pleins, en fait, de ressources extraordinaires. 2 Corinthiens 10, verset 1. Moi, Paul, je vous exhorte par la douceur et la tendresse de Christ, moi qui, en votre présence, suis humble parmi vous, mais qui, en mon absence, suis hardi envers vous, il écrivait des lettres sévères, comme nous le lisons ailleurs, mais je vous exhorte à ce que je n'ai pas à me montrer hardi quand je serai présent, avec cette assurance dont je pense pouvoir me montrer hardi envers certains qui nous jugent comme si nous marchions selon la chair. Car bien que nous marchions dans la chair, bien que nous vivions dans ce monde, bien que nous ayons des corps physiques, bien que nous devions faire face à des besoins physiques, nous ne combattons pas selon la chair. La bataille ultime que nous menons n'est pas une bataille de la chair. Ce n'est pas une bataille du type de la Première Guerre mondiale, de la Seconde Guerre mondiale, du Vietnam ou de l'Iran. Ce n'est pas selon la chair. Car les armes, verset 4. De notre combat, de cette lutte à laquelle vous et moi participons de manière unique, et dans laquelle très peu finissent par réussir, comme nous venons de l'apprendre, cette lutte que nous menons, nous avons des armes qui ne sont pas charnelles, mais puissantes par Dieu pour renverser des forteresses. Quoi que nous ayons à affronter, nous disposons des outils nécessaires pour vaincre. Nous avons les ressources nécessaires, dit Paul, pour nous sortir de toute situation, quelle que soit la forteresse dans laquelle nous nous trouvons, quelle que soit la forteresse contre laquelle nous combattons. Renversant les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et amenant toute pensée captive à l'obéissance de Christ, et étant prêt à punir toute désobéissance lorsque votre obéissance sera accomplie. Ne jugez-vous pas d'après les apparences extérieures? Demanda-t-il. Si quelqu'un se fie à lui-même en pensant qu'il appartient au Christ, qu'il réfléchisse à nouveau à cela, de même qu'il appartient au Christ, nous aussi nous appartenons au Christ. Paul nous dit de ne pas nous concentrer sur le physique, mais sur le spirituel, et il nous dit que nous disposons des outils nécessaires, des armes nécessaires pour remporter chaque bataille. Et c'est cela, l'ingéniosité, vaincre dans chaque situation, trouver comment vaincre dans chaque situation, mais cela repose sur les ressources qui nous ont été données. Si l'on regarde certaines des personnes les plus ingénieuses de la planète aujourd'hui, On constate qu'elles ont souvent utilisé leur ingéniosité pour accumuler des richesses. Et nous, bien sûr, ne menons pas une vie axée sur la recherche de la richesse, et ces hommes qui ont amassé de grandes richesses au fil des ans devront apprendre à vivre avec moins. Mais il y a certaines leçons qu'ils ont tirées, ils comprennent les lois du succès. Il y a certaines leçons qu'ils ont adoptées et dont nous pouvons tirer des enseignements en observant leur vie. Et l'une des personnalités les plus connues qui nous offre une leçon puissante à cet égard est Jeff Bezos, le fondateur et directeur d'Amazon. Il a grandi au Texas. Il a passé du temps avec son grand-père au ranch au Texas, et il a expliqué que son grand-père était l'homme le plus débrouillard qu'il ait jamais rencontré. Tout ce qu'il y avait à faire à la ferme, que ce soit de la mécanique ou autre chose, son grand-père s'en chargeait lui-même. Il apprenait comment faire et s'en occupait lui-même. Jusqu'aux soins vétérinaires, jusqu'à la fabrication des aiguilles pour ses soins. Bon, je ne voudrais pas me faire recoudre avec l'une de ces aiguilles, les aiguilles faites maison par le grand-père de Jeff Bezos. Mais j'imagine que c'était plutôt pour les vaches et les moutons. Mais cette leçon d'ingéniosité était tellement ancrée en lui que, quand lui et sa femme ont eu des enfants, sa femme a inventé une devise, ils ont familiarisé leurs enfants avec les outils dès leur plus jeune âge. Ils les ont laissés utiliser des couteaux très jeunes, à 5 ou 6 ans. Ils les ont laissés utiliser des outils électriques dès l'âge de 7 ans. Et sa femme disait, je préfère avoir un enfant à 9 doigts plutôt qu'un enfant dépourvu de ressources. C'est incroyable quand on y pense. Je préfère avoir un enfant à 9 doigts capable de se débrouiller et de se débrouiller seul dans le monde plutôt qu'un enfant dépourvu de ressources. C'est une leçon incroyable sur laquelle méditer. Maintenant, frère, nous ne gagnerons peut-être pas toutes les batailles auxquelles nous sommes confrontés. En fait, nous ne gagnerons pas toutes les batailles auxquelles nous sommes confrontés en tant que chrétiens, mais nous gagnerons la guerre si nous utilisons ces armes de combat, ces armes puissantes, ces outils que Dieu nous a donnés. Les outils font toute la différence. Ouvrez votre Bible au chapitre 6 de Matthieu, Matthieu 6. Nous devons accumuler les bons outils, Matthieu chapitre 6, verset 19. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où ni la teigne ni la rouille ne détruisent, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. Or, nous considérons souvent cela dans le sens de faire l'œuvre, de donner de l'argent pour faire l'œuvre. Nous pourrions l'envisager sous l'angle du quotidien. Nous pourrions l'envisager sous l'angle de la dîme ou des offrandes. Mais une autre façon de voir les choses est la suivante, si notre trésor est dans les cieux, si nous accumulons un trésor dans les cieux, nous construisons quelque chose. Nous construisons un dossier. Nous poursuivons quelque chose, et ce quelque chose est, bien sûr, la vie éternelle, l'appartenance à la famille de Dieu. Et nous savons que ce que nous faisons sur Terre aujourd'hui a un impact direct sur notre avenir au sein de cette famille. Avant tout, cela détermine si nous y serons réellement, si nous y serons tout court, mais ensuite, quelle sera l'ampleur de notre récompense? On nous a donné tous les outils nécessaires. Les outils font ou défont un projet. Je n'ai jamais rencontré mon grand-père. Je pense au grand-père de Bezos. Je n'ai jamais rencontré mon grand-père, mais j'ai interrogé mon père à son sujet. En gros, c'était un touche-à-tout. Il était agriculteur, il grimpait aux arbres pour cueillir des noix. Il était le cordonnier du village, mais surtout, il était employé par l'armée pour construire des structures, simplement des structures à ossature bois, au fur et à mesure de leur déplacement. Il était donc souvent absent, mais c'était un menuisier. J'ai demandé à mon père, était-il un bon menuisier? Et il m'a répondu, c'était un très bon menuisier. Et j'ai dit, était-il aussi bon que toi? C'est une sacrée question à poser à son père, es-tu meilleur que ton père? Et il n'a pas hésité à répondre, non, je suis un meilleur charpentier. Et ce n'était pas pour se vanter. J'ai dit, vraiment. Il a répondu, oui. Ton grand-père avait une scie à main, un marteau et un ciseau. J'ai des outils électriques, donc je suis un meilleur charpentier. Le travail que nous accomplissons dépend fortement des outils dont nous disposons. Nous n'accumulons pas des biens matériels, Luc 12 va dans le même sens ici, nous accumulons des biens spirituels. Nous amassons une récompense spirituelle. Nous ne mesurons pas la vie avec la même mesure que Bezos, même si nous pouvons tirer des leçons de ce qu'il a accompli. Luc 12, verset 13. Et l'un de ceux qui l'entourait lui dit, « Maître, dis à mon frère de partager l'héritage avec moi. » Et il répondit, « Homme, qui m'a établi juge ou arbitre sur vous ?» Et il leur dit, « Prenez garde et méfiez-vous de la cupidité. » Car la vie d'un homme ne consiste pas dans l'abondance des biens qu'il possède ici-bas, mais elle consiste dans l'abondance des biens que nous possédons au ciel, les trésors que nous possédons au ciel. Nous sommes, pour ainsi dire, dans le commerce de l'accumulation invisible, si je puis m'exprimer ainsi. Et il leur dit une parabole, en ces termes, les terres d'un certain homme riche produisirent abondamment. Et il se dit en lui-même, « Que ferai-je, car je n'ai pas de place où entreposer mes fruits ?» Et il dit, « Voici ce que je ferai. Je démolirai mes greniers et j'en construirai de plus grands, et j'y entreposerai tous mes fruits et mes biens. Et je dirai à mon âme, « Âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour de nombreuses années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. » Je suis à l'abri. J'ai assez, je vis de mes intérêts, je suis à l'abri. Et je dirai, repose-toi, réjouis-toi. Mais Dieu lui dit, au verset 20, insensé, cette nuit même ton âme te sera redemandée. Alors, à qui appartiendront ces biens que tu as amassés? Ils ne sont pas au ciel. Ils sont temporaires. Ils iront à quelqu'un d'autre. Il en est de même pour celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche envers Dieu. Vous et moi, frères, nous avons les outils pour accumuler ces richesses, et ils sont de la plus haute qualité. Ce sont 5 outils. Voici une introduction à ces 5 outils. Elle n'est en aucun cas exhaustive. Nous passerons plus de temps sur certains d'entre eux, moins sur d'autres. Mais nous disposons de 5 outils extraordinaires qui, s'ils sont utilisés correctement, nous rendront riches envers Dieu et nous assureront une place dans leur royaume. Nous avons 5 ressources à notre disposition. Nous regorgeons de ressources qui nous permettront de remporter la guerre dans laquelle nous avons été placés, qui nous a été imposée. Premier outil, nous venons d'entendre tout un sermon à ce sujet, nous n'y consacrerons donc pas beaucoup de temps. Mais pensez à la puissance qui découle de la pensée, de la méditation. Nous avons entendu quelque chose qui a changé ma vie. La méditation est le seul outil dont Dieu dispose. Tout a commencé par la méditation, Jean chapitre 1. Jean 1. Verset 1. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et sans elle rien de ce qui a été fait n'a été fait. Incroyable. Il y avait ces deux êtres qui étaient là depuis toujours, seuls, ne venant de nulle part, ils ont toujours été là. Incompréhensible. Peut-être pourrons-nous le comprendre lorsque nous entrerons dans la famille de Dieu, mais j'y réfléchis. On ne peut pas demander à Dieu, d'où viens-tu? Car il ne vient de nulle part. C'est donc tout simplement au-delà de la compréhension. Mais un jour, si l'on peut s'exprimer ainsi, un jour, ils ont eu une pensée, une méditation, et tout cela s'en est suivi. Tout ce dont nous faisons partie aujourd'hui, ce monde, le plan dans lequel nous nous trouvons, tout a pris naissance par la méditation. La même chose s'applique à nous, Proverbe 23. Proverbe 23. Tout commence dans l'esprit. Utiliser correctement cet outil, cette ressource, garantira le succès. Car c'est cela, l'ingéniosité, utiliser ce qui est disponible pour surmonter les obstacles. Nous en parlons simplement dans le sens le plus large, surmonter les obstacles dans cette vie et entrer dans le royaume, le but ultime et juste, cette première loi du succès. Proverbe, chapitre 23, verset 4. Ne te fatigue pas à devenir riche, cesse de te fier à ta propre sagesse. Fixeras-tu ton regard sur ce qui n'existe pas? Car la richesse se fait des ailes, elle s'envole comme un aigle vers les cieux. Ne mange pas le pain de celui qui a le regard malveillant, et ne convoite pas ses mets délicats. Car tel qu'il pense dans son cœur, tel il est. Mange et bois, te dit-il, mais son cœur n'est pas avec toi. D'autant plus que ce que tu auras mangé, tu le vomiras et tu perdras tes paroles aimables. Or, cela est dit dans un sens négatif. Car tel qu'il pense dans son cœur, tel il est. Mais l'inverse est vrai pour nous. Ce à quoi nous pensons, c'est ce que nous sommes. Ce sur quoi nous méditons, c'est ce que nous sommes. Et cela peut sembler évident, mais il y a une grande puissance à comprendre cela. Car nous pouvons nous forcer, comme nous l'avons entendu récemment, à nous entraîner à penser à certaines choses, et Dieu promet ici que cela nous transformera. Nous pouvons décider consciemment de nous asseoir et de réfléchir, et simplement en réfléchissant, nous pouvons façonner notre caractère. Nous sommes créés à l'image de Dieu, à sa ressemblance. Nous ne pouvons pas encore nous asseoir et créer le cosmos, j'ajouterai, comme notre Père céleste, nous ne pouvons pas nous asseoir, réfléchir et réaliser cela, mais nous pouvons nous asseoir, réfléchir et forger un caractère qui produit ce trésor dans les cieux. Cela nous aidera en fin de compte à vaincre, à triompher. C'est une ressource extraordinaire. Le sujet d'aujourd'hui est simple. Il s'agit simplement des 5 outils de la croissance chrétienne. Ce n'est pas complexe. Il peut être difficile d'appliquer ces outils, certes, mais ce n'est pas complexe. C'est facile à comprendre. Tout comme quelqu'un qui construit une maison a besoin d'un certain ensemble d'outils, un chrétien qui entre dans la vie éternelle a besoin d'un certain ensemble d'outils. Bien sûr, d'autres outils, d'autres éléments de la vie chrétienne relèvent de ces outils, s'inscrivent en leur sein ou les complètent. Ce ne sont là que les 5 outils, comme nous les appelons classiquement. Matthieu, chapitre 5. Le but est noble. Matthieu, chapitre 5. On ne peut plus noble. Matthieu 5, verset 48. Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait, nous a dit Christ. Or, ce « soyez » signifie « devenez ». Devenez parfait. Tel est le but. C'est le but que vous et moi partageons. C'est ce que Dieu veut, mais nous ne sommes pas parfaits pour l'instant, bien sûr. Nous aspirons à la perfection. Nous cherchons à devenir parfaits. La seule façon de passer de l'état imparfait dans lequel nous nous trouvons actuellement à cet état parfait qui ne viendra finalement que lorsque nous entrerons dans la famille de Dieu, c'est de grandir, de nous développer, de vaincre, de prévaloir, d'aller de l'avant, de nous améliorer sans cesse, d'accumuler de plus en plus de richesses dans les cieux. C'est ce que Dieu veut et attend de chacun de nous. Tout ce que nous faisons vise à grandir et à entrer dans la famille de Dieu, qu'il s'agisse de servir les autres, de les aider à entrer dans la famille de Dieu, d'accomplir l'œuvre, d'aider les autres à entrer dans la famille de Dieu, ou de travailler sur nous-mêmes, de nous aider à entrer dans la famille de Dieu. C'est ce que Dieu désire, fils et filles, en nous et, en fin de compte, en quiconque répondra à son appel. Mais pour grandir, nous devons utiliser ces outils, ces ressources, de manière efficace. Deuxième outil, deuxième ressource, la prière. Matthieu 21, 18. Le lendemain matin, alors que Christ retournait en ville, il eut faim. Il avait faim. Les besoins physiques ici sur terre. Et voyant un figuier sur le chemin, il s'en approcha et n'y trouva que des feuilles. Il lui dit, « Que jamais plus il ne pousse de fruits sur toi, désormais pour toujours. » Et aussitôt le figuier se dessécha. Cela équivaut à une prière. « Que jamais plus il ne pousse de fruits sur toi, et l'arbre se dessécha. » Avant d'aborder ici l'aspect de la prière, il est étonnant de constater, si l'on se réfère au récit de Marc, ce que nous ne ferons pas ici, que ce n'était même pas la saison des figues. D'un point de vue saisonnier, il n'aurait pas dû y avoir de figues sur cet arbre, et pourtant, lorsque Christ s'en approcha et n'y trouva pas de fruits, il le maudit. Étonnant. Dieu veut de la croissance. Dieu veut de la production. C'est pourquoi il nous donne tous les outils. Il veut que nous réussissions. Christ s'est approché de quelque chose qui, physiquement, n'aurait pas dû réussir, et pourtant il s'attendait à y trouver des fruits, avant même que ce ne soit le moment. Verset 20, « Et quand les disciples virent cela, ils s'étonnèrent, en disant, « Comment le figuier s'est-il desséché si vite ?» Ils étaient émerveillés par cette prière exaucée. Ils étaient stupéfaits. Cet arbre s'était desséché sous leurs yeux. Jésus leur répondit, « En vérité, je vous le dis, si vous avez la foi et ne doutez pas, non seulement vous ferez ce qui a été fait au figuier, mais même si vous dites à cette montagne, « Sois enlevé et jeté dans la mer, cela se fera. » Et tout ce que vous demanderez dans la prière, en croyant, vous le recevrez. » Maintenant, l'essentiel ici est que Christ, bien sûr, enseignait une leçon puissante à travers cet arbre. Ma femme et moi aimons les murs, et il y a quelques parcs par ici qui ont des mûriers à une certaine période de l'année. Et je peux vous garantir que si ma femme et moi allions dans l'un de ces parcs en hiver, que nous voyions les mûriers, qu'il n'est pas de mur, et que je commence à les maudire, et qu'elle commence à les maudire, en priant à ce sujet, vous savez, s'il te plaît, incinère simplement ces horribles arbres parce qu'ils ne produisent pas la récolte de mûres que nous attendions ici en janvier, je peux vous garantir que rien ne se passerait. Pourquoi? Parce que la réponse à la prière dépend de nos besoins. Il y avait une raison pour laquelle cet arbre devait dépérir. Christ enseignait une leçon. Il devait dépérir pour que ce récit soit finalement consigné dans les Écritures. Tout ce que nous demandons dans la prière, en croyant, nous le croyons lorsque nous avons un besoin précis. Vous savez, si c'est « Je n'ai plus rien à manger. Père, donne-moi quelque chose à manger, s'il te plaît. » En tant que chrétien, cette prière sera exaucée. Elle sera exaucée. Ou pour la guérison, peut-être que ce n'est pas dans les délais que nous avions prévus, mais finalement, nos corps seront guéris. Les prières fondées sur les besoins sont exaucées. Maintenant, si je prie pour, disons, aller acheter un billet à gratter au 7-Eleven et trouver $25 000 sous la fine pellicule, Cela n'arrivera pas. C'est une question de besoin. Luc 17. Luc 17. Si nous prions, que ton règne vienne, cela va arriver. Si nous prions pour certaines choses spécifiques que nous examinerons plus en détail dans le message, le résultat est garanti. Si nous prions pour certaines choses dont nous pensons avoir besoin et que Dieu ne nous les accorde pas, cela pourrait être la plus grande réponse à la prière que nous aurions jamais pu imaginer. Tout simplement non. Certaines des meilleures réponses à la prière que j'ai reçues, et je suis sûr que beaucoup d'entre vous pourraient en témoigner, sont un non. Non. J'ai quelque chose de différent en réserve. J'ai quelque chose de mieux en réserve, pourrait dire Dieu. Luc 17, verset 5. Et l'apôtre dit au Seigneur, augmente notre foi. Christ dit, si vous aviez la foi comme un grain de sénévé, vous pourriez dire à ce sycomore, sois déraciné et planté dans la mer, et il vous obéirait. Encore une fois, s'il y avait un besoin. Ce n'est pas un tour de passe-passe. S'il y avait un besoin. Luc 11. Il est si facile, surtout quand on est novice, de voir cela et de se dire, eh bien, tout ce pourquoi je prie va simplement se réaliser sous mes yeux. Et cela peut être dévastateur ou décourageant quand ce n'est pas le cas. C'est pourquoi il est important de garder ces conditions à l'esprit lorsque nous prions pour quelque chose. Nous devons prier pour les choses dont nous avons besoin, et franchement, Dieu sait déjà ce dont nous avons besoin. Luc 11, verset 1, il arriva, comme il priait en un certain lieu, qu'après avoir cessé, l'un de ses disciples lui dit, Seigneur, enseigne-nous à prier, comme Jean aussi a enseigné à ses disciples. Et il leur dit, quand vous priez, dites, Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Comme au ciel, ainsi sur la terre. Quelque chose dont la réponse est garantie, un miracle. Quelque chose qui changera radicalement la société pour toujours, en mieux. Cela arrivera si nous prions pour cela. Cela arrivera même si nous ne le faisons pas, mais c'est quelque chose pour lequel nous avons une réponse garantie. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, et pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à tous ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Un autre résultat garanti si nous prions. Dieu nous sortira de toute situation, en partie grâce à ces outils que nous utilisons pour rester en contact et en communication avec lui. Délivre-nous du mal. Cela arrivera si nous le prions et si nous faisons notre part. Et il leur dit, lequel d'entre vous, s'il a un ami et va le trouver à minuit pour lui dire, ami, prête-moi 3 pains. Car un de mes amis est de passage, il est venu chez moi, et je n'ai rien à lui offrir. Et de l'intérieur, il répondra, ne me dérange pas. La porte est fermée et mes enfants sont avec moi dans mon lit. Je ne peux pas me lever pour te donner quelque chose. Il n'y a personne chez qui tu irais frapper à la porte au milieu de la nuit sans que cette personne ne réponde à ta demande si celle-ci est raisonnable. Je vous le dis, même s'il ne se lèvera pas pour le lui donner parce qu'il est son ami, pourtant, à cause de son insistance, il se lèvera et lui donnera tout ce dont il a besoin. Son insistance, c'est un peu, oh là là, c'est audacieux de venir demander cela à minuit. Dieu veut que nous soyons insistants dans nos prières. Je crois que je le dis bien. C'est difficile. Il veut que nous venions constamment vers lui avec nos besoins. Il veut constamment entendre ce que nous avons à l'esprit, et il promet de répondre. Je vous le dis, même s'il ne se lèvera pas pour le lui donner parce qu'il est son ami, pourtant, à cause de son insistance, il se lèvera et lui donnera tout ce dont il a besoin. Et je vous le dis, Demandez et il vous sera donné. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Un résultat garanti. Si nous avons un besoin, mes frères, non pas un désir, mais un besoin, nous avons accès à l'être le plus plein de ressources sur terre. Psaume 24. Nous nous efforçons d'apprendre à faire preuve d'ingéniosité. Nous nous efforçons d'utiliser ces ressources que Dieu nous a données. Mais nous sommes dans la même équipe. Nous sommes en partenariat. Nous recherchons l'être le plus plein de ressources qui soit. Psaume 24, verset 1. La terre appartient à l'Éternel, ainsi que tout ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. Il n'y a rien qui soit hors de portée de Dieu. Il peut pourvoir à tous nos besoins. Il peut répondre à toutes nos prières. Matthieu, chapitre 6. Même récit parallèle du chapitre 11, mais il ajoute quelque chose de plus. Matthieu 6, verset 5. Lorsque vous priez, Matthieu 6, 5, ne soyez pas comme les hypocrites, car ils aiment prier debout dans les synagogues et au coin des rues, afin d'être vus des hommes. En vérité, je vous le dis, ils ont déjà reçu leur récompense. Ils ne sont pas intéressés par une communication sincère avec Dieu. Ils ne sont pas intéressés par le développement d'une relation avec Dieu. Ils sont intéressés par le fait de montrer aux autres leur relation avec Dieu, à quel point ils sont justes. Je pêchais il y a peu, et j'ai entendu deux hommes au bout du quai. L'un d'eux était un homme très sympathique, mais un autre s'est approché et lui parlait de tout son engagement au service de l'Église. C'était intéressant à écouter. Il a dit, « Tu sais, je suis huissier le dimanche. Je travaille en cuisine le dimanche. » Puis il a marqué une pause et a ajouté, « Parfois, je fais l'huissier et je travaille dans la cuisine de elle. » Je me suis dit, « Oh là là, voilà un homme qui est destiné au royaume. » Non, ce n'est pas ce que je pensais. Mais c'était intéressant à entendre, car cela m'a beaucoup rappelé ceux qui prient au coin des rues pour être vus des hommes. Je suis sûr que c'était un homme bien, mais c'est simplement ainsi que fonctionne le christianisme du monde. Les gens veulent être vus des hommes, et ils ont leur récompense. Je suis sûr qu'il a impressionné cet autre monsieur sur le quai. Il ne m'a pas impressionné, mais je dispose d'informations privilégiées qu'il n'a peut-être pas. Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre. Après avoir fermé ta porte, prie ton Père qui est là dans le secret. Et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. Il se réjouit quand il nous voit demander. Il se réjouit quand il nous voit venir à lui avec nos besoins. Mais quand vous priez, n'utilisez pas de vaines répétitions comme le font les païens, car ils pensent qu'ils seront exaucés à force de parler. Ne soyez donc pas comme eux, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant même que vous ne le lui demandiez. Pour revenir à cet exemple, si nous avions besoin de déplacer cette montagne, et que Dieu savait que nous avions ce besoin, pour quelque raison que ce soit, quand nous le lui demanderions, il y répondrait. Il sait ce dont nous avons besoin. En fait, il nous inspire probablement à prier pour les choses dont nous avons besoin afin qu'il puisse y répondre, que nous puissions approfondir notre relation avec lui et renforcer notre foi. Il sait exactement ce dont nous avons besoin, et parfois il sait, « Non, tu n'as pas besoin de cela. » Et cela peut être difficile. Cela peut être difficile quand la réponse est non. Ouvrez votre Bible au chapitre 1 de l'épître de Jacques. Il y a des garanties concernant les choses pour lesquelles nous pouvons prier. Il sait, par exemple, que nous avons besoin de sagesse. C'est pourquoi il dit ceci. Jacques 1, Verset 2. Mes frères, considérez comme une joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Et que la patience accomplisse son œuvre parfaite, afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en rien. Si l'un de vous manque de sagesse, c'est nous tous, nous pouvons tous grandir en sagesse. Il le dit probablement avec ironie. Je doute qu'il ait pensé, « Oh, vous savez, il y en a quelques-uns dans cette assemblée qui n'ont pas besoin de plus de sagesse. » Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous abondamment, sans reproche, et elle lui sera donnée. Je veux dire, imaginez Dieu réprimandant quelqu'un pour avoir demandé de la sagesse. Tu veux de la sagesse? Je ne parle pas au nom de Dieu, mais réfléchissez-y. Je ne vais pas te donner de sagesse. C'est absurde. Si nous demandons, eh bien, Père, j'aimerais pouvoir aider davantage au sein de la congrégation. Cela ne tombera pas dans l'oreille d'un sourd. J'aimerais mieux comprendre tel ou tel aspect du christianisme. Cela ne tombera pas dans l'oreille d'un sourd. Quoi que nous demandions dans la prière, tant que cela correspond à la volonté de Dieu, il l'entendra. Mais qu'il demande avec foi, sans douter. Car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quoi que ce soit du Seigneur. Nous devons être convaincus que nous communiquons avec un être qui a à cœur notre bien et qui veut nous aider. Qui d'autre a un accès immédiat à l'être le plus puissant et au Créateur de l'univers? Personne. Nous sommes les personnes les plus ingénieuses sur Terre. Parfois, si la situation est désespérée, nous devons recourir à un autre outil. Je vais être bref, car j'ai entendu dire que quelqu'un pourrait aborder cet outil dans un avenir relativement proche, mais, dans le temps qui nous est imparti, je parlerai du jeûne. Marc, chapitre 9. Parfois. La situation l'exige. Je ne parlerai pas d'artillerie lourde, car les deux autres outils en sont également. Je ne veux pas le placer au-dessus des deux outils dont nous avons déjà parlé, mais le jeûne est un outil puissant. Marc, chapitre 9. Marc 9, verset 14. Et quand il vint vers ses disciples, il vit une grande foule autour d'eux et les scribes qui discutaient avec eux. Et aussitôt, tout le peuple, en le voyant, fut grandement émerveillé, et courant vers lui, le salua. Et il demanda aux scribes, « De quoi discutez-vous avec eux ?» Et l'un de la foule répondit et dit, « Maître, je t'ai amené mon fils, qui a un esprit muet. Et partout où il l'emmène, il le secoue violemment, car il écume, grince des dents et dépérissait. Et j'ai dit à tes disciples de le chasser, et ils l'ont chassé, mais ils n'ont pas pu. Ils étaient impuissants, bien que Christ leur eût donné le pouvoir d'agir. Il leur répondit, « Ô génération incrédule, combien de temps serai-je encore avec vous? Combien de temps devrais-je vous supporter? Amenez-le-moi. » Et ils le lui amenèrent. Et dès qu'il le vit, aussitôt l'esprit le secoua violemment, et il tomba par terre et se roulait en écumant. Et il tomba par terre et se roulait en écumant. Et il demanda à son père, « Depuis combien de temps cela lui arrive-t-il ? » Et il répondit, « Depuis son enfance. » Ce pauvre garçon était donc possédé depuis son enfance, tourmenté tout au long de sa vie jusqu'à ce moment-là. Et souvent, cela le jette dans le feu et dans l'eau pour le détruire. Imaginez-vous être un parent vivant avec cela, voyant votre petit enfant parfois essayer simplement de se jeter dans le feu. Vous savez, les feux de cuisine devaient être partout à cette époque. Essayer de se jeter dans le feu ou de se noyer dans l'eau parce que son démon était en lui et le poussait à faire cela. Ce serait une vie horrible, tant pour l'enfant que pour le parent. Mais si tu peux faire quelque chose, aie pitié de nous et aide-nous. » Jésus lui dit, « Si tu peux croire, tout est possible à celui qui croit. » Et aussitôt, le père de l'enfant s'écria en pleurant, « Seigneur, je crois, aide mon incrédulité. » Or, c'était là une chose que Dieu entendrait et à laquelle il répondrait. Ainsi, Christ pouvait dire, « Si tu crois, cela arrivera. » Dieu ne laisserait pas quelqu'un qu'il appelle à voir un petit enfant comme celui-ci. Il remédierait à la situation. Si tu peux croire, tout est possible à celui qui croit. Et aussitôt, le père de l'enfant s'écria et dit en pleurant, « Seigneur, je crois, aide mon incrédulité. » Et quand Jésus vit que la foule accourait, il réprimanda l'esprit impur en lui disant, « Esprit muet et sourd, je te l'ordonne, sors de lui et n'y rentre plus. » Et l'esprit poussa un cri, le secoua violemment et sortit de lui. Il était comme mort, au point que beaucoup disaient, « Il est mort. » Mais Jésus le prit par la main, le releva, et il se leva. Et quand il arriva à la maison, ses disciples lui demandèrent en privé, « Pourquoi n'avons-nous pas pu le chasser ? Pourquoi n'avons-nous pas pu le faire, alors même que tu nous as donné le pouvoir de le faire ? Tu nous as envoyé avec autorité sur les esprits. » Et il leur dit, « Cette sorte ne peut sortir que par la prière et le jeûne. » Ainsi, parfois, une situation exige l'utilisation conjointe des deux outils. Il existe un outil adapté à chaque tâche, mais si vous avez déjà exercé un métier manuel ou si vous avez déjà fait quoi que ce soit, assembler une table commandée par correspondance, peu importe ce que c'est, construire une niche pour chien, vous savez que les outils doivent fonctionner en synergie. On ne peut pas se dire, j'ai une perceuse, je suis prêt à construire une maison. Il faut une perceuse, une scie, et ainsi de suite. Il faut de nombreux outils pour mener à bien un travail. Les bons outils, parfois des outils différents. Une femme dans la cuisine veut couper une miche de pain. Oh, il est temps de sortir ma scie sabre. Non, c'est absurde. Ou il est temps d'écraser les pommes de terre. Tu peux aller chercher le marteau de 8 livres, chérie. C'est le bon outil pour le bon travail. Et parfois plusieurs outils. Dans un cas comme celui-ci, ou dans le cas d'un procès très grave, peut-être un procès où la vie est en jeu ou un procès pénible, ou s'il de quelqu'un traverse une épreuve terrible, ce genre de situation ne peut être résolu que par la prière et le jeûne. Maintenant, si la réponse était non. J'ai prié avec ferveur mais je n'ai pas eu cette corvette, peut-être devrais-je jeûner pour cela. Je te garantis que la réponse sera toujours non. Peut-être jeûner et dire, « Père, montre-moi s'il te plaît pourquoi je n'ai pas eu la corvette, et je peux te garantir que tu auras une réponse, tu auras cette réponse. » Nous ne pouvons pas faire une grève de la faim pour forcer la volonté de Dieu si la réponse est non pour de bonnes raisons que nous ne voyons peut-être pas. Nous avons lu récemment Ésaïe 58. Nous n'allons pas y revenir, mais vous pouvez voir les bienfaits du jeûne. Dieu ne veut pas d'une grève de la faim. Il veut dénouer les liens de la méchanceté. Il veut que nous comprenions certaines choses. Il veut que nous nous rapprochions de lui en utilisant cet outil. Parfois, associé à la prière, c'est le seul moyen de surmonter une épreuve ou une difficulté à laquelle nous sommes confrontés. Une lutte personnelle. Étude biblique. Quand j'étais enfant, j'adorais lire des histoires sur les conquistadors, ces cortés qui ont commis des actes terribles, mais c'était des hommes de vision et de détermination, qui cherchaient à accomplir certaines choses, et ils y sont parvenus. L'un d'eux était Ponce de Léon, et il fut le premier, je crois, arrivé en Floride. Je pense qu'il fut le premier à débarquer en Floride, et il était à la recherche de la fontaine de Jouvence. Il se disait, si seulement je pouvais trouver cette fontaine, en Floride, de tous les endroits. Si seulement je pouvais trouver cette fontaine, je pourrais vivre éternellement. Il n'avait pas besoin d'aller en Floride. C'est agréable d'aller en Floride, mais il n'avait pas besoin d'y aller. Il aurait pu simplement ouvrir sa Bible et se rendre au chapitre 6 de Jean, Jean 6. Pendant que nous y sommes, vous pouvez être un excellent mécanicien. Vous pouvez être un excellent constructeur. Vous pouvez avoir de grandes compétences, mais sans les bons outils, vous ne pouvez pas faire grand-chose. Je me souviens très bien d'être sur un bateau quand j'étais enfant avec mon père et un de mes cousins. Mon père est un réparateur phénoménal, le genre de réparateur sur lequel on compte en dernier recours, capable de faire presque tout. Et mon cousin est un excellent mécanicien spécialisé dans les voitures étrangères. Il possède une grande entreprise de réparation de voitures étrangères. Vous avez donc un excellent mécanicien et un excellent réparateur, et la pompe de cale du bateau est tombée en panne en pleine mer. Nous prenons l'eau, et ces deux laissent à faire dans tous les sens, mais ils ne progressent pas beaucoup, car si je me souviens bien, tout ce qu'ils avaient à bord, c'était un tournevis ou quelque chose du genre. Vous pouvez avoir un doctorat et être chirurgien cardiaque, et quelqu'un a une crise cardiaque devant vous, mais si vous êtes sur une île isolée sans aucun outil, sans aucune équipe, sans rien pour vous aider à mener à bien la tâche à accomplir, vous n'irez pas loin. Il faut disposer des bonnes ressources. Nous avons les bonnes ressources. Étude biblique, Jean chapitre 6, verset 63, « C'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous dis, elles sont esprit et elles sont vie. Nous en avons entendu parler, je crois, le sabbat dernier, je crois que nous étions ici. Mais il y en a parmi vous qui ne croient pas, car Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient pas et qui le trahiraient. Et il a dit, c'est pourquoi je vous dis que nul ne peut venir à moi, si cela ne lui a été donné par mon Père. Nous sommes ici, frères, parce que cela nous a été donné par Dieu. À partir de ce moment-là, beaucoup de ses disciples s'en allèrent et ne marchèrent plus avec lui. Alors Jésus dit aux 12, allez-vous aussi vous en aller? Il leur posa une question très directe. Allez-vous aussi apostasier, ou allez-vous faire partie des rares qui persévéreront? Simon-Pierre lui répondit et dit, Seigneur, vers qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Ce sont ces paroles qui nous transforment. Ce sont ces paroles qui peuvent nous faire grandir. Psaume 119, Psaume 119. Nous chantons souvent ce psaume. Le psaume 119, verset 97. Oh, combien j'aime ta loi. David, je pense que c'est David ici. C'est ma méditation tout au long du jour. Par tes commandements, tu m'as rendu plus sage que mes ennemis, car ils sont toujours avec moi. J'ai plus d'intelligence que tous mes maîtres, car tes témoignages sont ma méditation. Nos jeunes qui vont à l'école, vous, les jeunes, avaient plus d'intelligence que vos maîtres. C'est incroyable à contempler. Car les témoignages de Dieu sont dans notre esprit. Je comprends mieux que les anciens, car je garde tes préceptes. J'ai détourné mes pieds de toute voie mauvaise, afin de garder ta parole. Je ne me suis pas écarté de tes jugements, car tu m'as enseigné. Que tes paroles sont douces à mon palais, oui, plus douce que le miel à ma bouche. Par tes préceptes j'acquiers l'intelligence, c'est pourquoi je hais toute voix mensongère. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. La parole de Dieu nous montre ce qui est bien et ce qui est mal, elle nous indique les chemins à suivre et ceux à éviter. Et si nous l'étudions, Si nous mettons à profit cette ressource extraordinaire que l'on a qualifiée de mode d'emploi de l'humanité, si nous mettons à profit cette ressource extraordinaire, nous saurons comment marcher, nous saurons comment nous conduire, nous connaîtrons le chemin de la vie. J'ai fait un serment et je l'accomplirai, je respecterai tes jugements justes. Je suis très affligé, ranime-moi, ô Seigneur, selon ta parole. Chapitre 19, Psaume 19, verset 7. La loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme. Elle peut nous transformer. Elle peut nous rendre parfaits. Si nous écoutons ce que Dieu dit et si nous comptons sur lui pour l'appliquer, restaurant l'âme, le témoignage de l'Éternel est sûr, rendant sages les simples. Elle nous transformera et nous restaurera. Nous avons vu dans l'épître de Jacques que si nous manquons de sagesse, nous devons la demander par la prière et Dieu nous la donnera abondamment, mais cette sagesse ne viendra que si nous étudions ensuite la Bible pour voir ce qu'il dit sur un sujet. Il veut nous donner la sagesse, mais pour cela, nous devons voir ce qu'il dit dans sa parole. Alors, il nous inspirera pour la comprendre, et nous pourrons alors l'appliquer. Dans les Proverbes, que vous commenciez à lire au chapitre 1, 2, 3, 4, ou là où cela s'arrête, et encore, on vante la nécessité et le but de la sagesse. Acquiert la sagesse. C'est la chose principale, dit Dieu. Eh bien, cela ne peut venir que de l'étude de sa parole et de la soumission à sa direction, ce qui nous amène au cinquième et plus grand outil. Revenons au chapitre 11 de Luc. Le cinquième et plus grand outil. Nous avons lu la prière modèle plus tôt dans le chapitre 11, mais nous nous sommes arrêtés stratégiquement avant le verset 11, Luc 11, 11, et c'est là que nous allons reprendre. Si un fils demande du pain à l'un de vous qui est père, vous savez, en fait, juste pour le contexte et la fluidité, reprenons là où nous en étions. Commençons au verset 9, je vous le dis, demandez, et l'on vous donnera. Cherchez, et vous trouverez. Frappez, et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Et c'est dans ce contexte que Dieu nous fait l'une des plus grandes promesses que nous puissions recevoir. Si un fils demande du pain à l'un d'entre vous qui est père, lui donnera-t-il une pierre? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent à la place d'un poisson? Ou s'il demande un œuf, lui offrira-t-il un scorpion? Si donc vous, qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Parlons de la prière exaucée. Le plus grand miracle qui se produit quotidiennement, d'une certaine manière, la plus grande prière exaucée qui se produit quotidiennement, alors que nous renouvelons chaque jour l'homme intérieur par, c'est de recevoir davantage de l'Esprit Saint de Dieu, de lui demander davantage de l'Esprit Saint et de le recevoir. C'est un miracle invisible, mais il accroît nos richesses dans les cieux. Il nous donne la force de mettre en pratique ce que nous avons étudié. Il nous donne la force et la direction quant à ce pourquoi prier. Il nous donne la foi nécessaire pour croire que Dieu répondra à nos prières. Nous parlons bien sûr de l'exercice du Saint-Esprit, ce cinquième outil. C'est un outil d'une grande puissance. Des prières exaucées chaque jour. Père, donne-moi davantage de ton esprit. Bien sûr, il le fera. Il est plus désireux de le faire qu'un père ne laisse de donner un morceau de nourriture à son enfant affamé. Incroyable. 2 Timothée 1, 2 Timothée 1. Cela devrait être incroyablement réconfortant. Si je veux une réponse garantie à ma prière, je dois prier pour recevoir davantage de l'Esprit Saint. Dieu est impatient de le donner à chacun d'entre nous. 2 Timothée 1, En fin de compte, nous serons entièrement composés d'esprit. Nous sommes principalement de chair à présent, mais nous avons son esprit en nous, qui nous convertit et nous transforme, avec ses autres outils également. Deuxième épître à Timothée, chapitre 1, verset 3. Je rends grâce à Dieu, que je sers depuis mes ancêtres avec une conscience pure, de ce que je fais sans cesse de vous mémoire dans mes prières, nuit et jour, désirant vivement vous voir, en me souvenant de vos larmes, afin d'être rempli de joie lorsque je me souviens de la foi sincère qui est en vous, et qui habitait d'abord en votre grand-mère Loïc et en votre mère Eunice, et dont je suis persuadé qu'elle est aussi en vous. C'est pourquoi je te rappelle de ranimer le don de Dieu qui est en toi par l'imposition de mes mains. Car Dieu ne nous a pas donné un esprit de crainte, il ne nous a pas donné un esprit de crainte, mais de puissance, d'amour et de sagesse. Nous pouvons prier pour la puissance, l'amour et la sagesse, des choses que Dieu veut que nous ayons, et il est plus disposé à nous les donner qu'une mère ou un père affamé ne laisse à donner de la nourriture à son enfant. Incroyable! N'aie donc pas honte du témoignage de Dieu, ni de moi qui suis prisonnier, et ainsi de suite. Frères et sœurs, nous sommes en quête de perfection. Nous sommes ceux qui cherchons d'abord le royaume de Dieu et sa justice à mesure que nous devenons parfaits, comme il est dit dans le chapitre précédent, Matthieu 5, avant Matthieu 6, où il nous est dit de chercher d'abord le royaume de Dieu. Mais il ne s'agit pas seulement de chercher d'abord le royaume de Dieu, il s'agit de chercher d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Nous changeons. Nous devenons chaque jour, chaque semaine, chaque mois, chaque année un peu plus semblables à Dieu. Nous nous transformons en quelque chose d'autre. Et c'est cet esprit, au cœur de cette cinquième grande loi, qui rend cela possible. Il nous aide à comprendre ce que nous lisons. Jean 2, verset 24, que ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous. Si ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous, vous demeurerez aussi dans le Fils et dans le Père. En lien direct avec l'étude de la Bible, ce que nous avons entendu. Et voici la promesse qu'il nous a faite, la vie éternelle. Je vous ai écrit ces choses au sujet de ceux qui vous séduisent. Mais l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous, et vous n'avez pas besoin qu'un homme vous enseigne. Mais comme cette onction vous enseigne toutes choses, et qu'elle est la vérité et n'est pas un mensonge, et comme elle vous a enseigné, elle demeurera en lui. Cela ne veut donc pas dire que l'Église de Dieu n'a pas besoin d'enseignants. Il s'agit ici des séducteurs. Jean dit, écoutez, vous avez le Saint-Esprit. Vous savez qui écouter. Vous savez qui ne pas écouter. Les brebis entendent la voix du Christ, aurait-il pu ajouter. Vous savez ce que dit la Bible. Vous êtes capable de la comprendre parce que Dieu vous a appelé et vous a donné son Saint-Esprit. Vous savez qui écouter, vous savez qui prêche des choses conformes à la parole de Dieu et qui prêche des choses contraires à la parole de Dieu. L'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous, et vous pouvez comprendre les choses. C'est un élément central en lien avec les autres lois que nous avons déjà abordées. Jean 16, verset 13. C'est cet esprit en nous, frères, qui nous permet de comprendre ce que nous lisons. Jean 16, 13. Mais quand il viendra, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Tout ce que nous comprenons au-delà du niveau académique vient du fait que nous avons le Saint-Esprit. Nous comprenons ce que nous lisons. Nous comprenons ce que nous entendons. Nous ne le comprenons peut-être pas parfaitement. Qui parmi nous comprend tous les détails de la prophétie? Personne. Nous ne le comprendrons pas tant que ce qui est parfait ne sera pas venu. Nous le comprenons. Mais nous comprenons, d'une manière générale, le plan de Dieu mieux que quiconque ne l'a fait depuis des millénaires. Nous comprenons ce dont nous faisons partie grâce à cette série à laquelle nous nous consacrons depuis plus d'une décennie maintenant. Nous comprenons mieux que n'importe lequel de nos frères d'autrefois ce qui nous attend, et c'est un plan merveilleux. Nous comprenons ce que nous devons faire pour recevoir la vie éternelle. Nous comprenons l'alliance que nous avons conclue lorsque nous sommes entrés dans les eaux du baptême. Et si nous comprenons tout cela, c'est parce qu'à un moment donné, l'Esprit a agi en nous, et qu'à un moment donné, il est entré en nous. Et il nous conduit dans toute la vérité, que nous soyons appelés sur le chemin de la conversion, que nous soyons déjà convertis ou que nous soyons sanctifiés en tant que jeunes de l'Église de Dieu. La ressource la plus précieuse dont dispose Dieu est son Esprit. Il nous a déjà donné un peu de sa ressource la plus précieuse. Il est Esprit, et il veut que vous et moi devenions Esprit. Avec ses outils à notre disposition, en particulier le dernier. Ouvrez Jérémie chapitre 32 alors que nous arrivons à la fin. Jérémie chapitre 32. Jérémie chapitre 32. Verset 16. Or, lorsque j'eus remis l'acte d'achat à Baruch, fils de Nerija, je priai le Seigneur en disant, « Ah, Seigneur Dieu, voici, tu as fait le ciel et la terre par ta grande puissance et ton bras étendu, et rien n'est trop difficile pour toi. » Jérémie reconnaissait que tout est possible. Avec Dieu, tout est possible, a dit Christ. Tout est possible avec cet être qui possède toutes les ressources, et qui nous donne les ressources nécessaires pour devenir comme lui, pour faire partie de sa famille, pour devenir Dieu. Tu fais miséricorde à des milliers de générations et tu punis l'iniquité des pères sur la tête de leurs enfants après eux. Le grand, le Dieu puissant, le Seigneur des armées est son nom. Grand dans ses conseils, puissant dans ses œuvres. Car tes yeux sont ouverts sur toutes les voies des fils de l'homme, pour rendre à chacun selon ses voies et selon le fruit de ses actions. Dieu nous récompensera selon le fruit de nos actions. Il nous a donné certains outils pour devenir parfaits. Il veut voir, vont-ils utiliser ces outils? Vont-ils les apprécier à leur juste valeur? Il y a certains outils que nous utilisons moins fréquemment, comme le jeûne, mais il y en a d'autres que nous devrions utiliser chaque jour. La prière, l'étude, la méditation, l'exercice de l'esprit, il ne devrait pas se passer un seul jour sans eux. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. En plaisantant, si vous voulez prendre un jour de repos de la prière, vous pourriez peut-être prendre un jour de repos de manger le pain quotidien, mais alors vous jeûneriez. Vous exerceriez l'un des outils, vous seriez probablement en bonne forme. Cela a du sens. Avec ces outils, frères, au service du Dieu qui dit qu'il n'y a rien de trop difficile pour lui, il n'y aura rien de trop difficile pour nous. Romains chapitre 8, pour conclure. Romains chapitre 8, verset 28. Nous savons que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. En effet, ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être conformes à l'image de son Fils, afin qu'il soit le premier-né parmi de nombreux frères. De plus, ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Nous pouvons surmonter tous les obstacles grâce aux ressources dont nous disposons, en nous appuyant sur cet être tout-puissant pour qui rien n'est trop difficile. Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnerait-il pas aussi gracieusement toutes choses avec lui? Celui qui possède toutes les ressources veut nous donner toutes les ressources, mais nous devons utiliser les ressources qu'il nous a données maintenant pour atteindre cet objectif. Nous avons le bon objectif, l'objectif ultime, la vie éternelle dans la famille de Dieu. Souvenons-nous toujours que nous disposons des outils ultimes. Nous regorgeons de ressources, mes frères. Souvenons-nous que nous les avons et utilisons-les.